Le hasard fait parfois bien les choses, puisque pour cette dernière année d'enseignement, je me trouve effectivement en position de conclure la longue enquête sur les racines du présent, sur la situation actuelle, sur le parcours de la modernité qui nous a occupés depuis pas mal d'années. Le moment est venu, objectivement et subjectivement, comme on aurait dit en bonne philosophie, d'apporter le point final à cette exploration, d'en dresser le bilan et de dégager les perspectives sur lesquelles elle débouche. Cette enquête obéit à une motivation très élémentaire, tellement élémentaire qu'elle devrait être la mieux partagée. Comprendre ce qui se passe, se rendre intelligible la situation qui nous est échue. Or, force est de constater qu'elle ne l'est pas partagée. Et c'est l'une des étrangetés de la situation qu'il faut expliquer. Il y a à cela un premier motif évident qui est que toute réflexion de cet ordre nous emmène ipso facto sur un terrain tenu pour aujourd'hui pour hautement dangereux, au point que la plupart des esprits répugnent à s'y aventurer, le terrain de l'histoire. Eh bien oui, c'est ainsi. Pour nous, modernes, se rendre compte de sa propre situation exige de penser historiquement, de se situer sur la carte du devenir. Où en sommes-nous du mouvement qui nous emporte pour autant que nous soyons en mesure d'en rendre compte ? Classiquement, la réponse à cette question, qui vient de très loin, était d'ordre métaphysique. Elle portait sur le monde et Dieu, l'ordre du monde et la volonté de Dieu. Pour nous autres, depuis deux siècles, elle a pris obligatoirement, que nous le voulions ou non, le visage pragmatique d'une question sur l'histoire. Ce qui n'élimine aucunement les interrogations antérieures, mais ce qui leur ajoute une dimension supplémentaire particulièrement épineuse. Car il y a eu bien des mésaventures et des désillusions du côté de cette pensée de l'histoire. Elles sont notoires, je n'ai pas besoin d'y insister. C'est au point que le gros sens commun d'aujourd'hui veut que toute proposition de cette nature soit vaine et d'ailleurs inutile. Le seul mot de philosophie de l'histoire provoque le ricanement quand il ne passe pas pour la suprême disqualification. Le sentiment de supériorité de l'esprit dit postmoderne s'attache en particulier au fait de n'être pas dupe des grands récits, comme il est convenu désormais de les appeler. Ces grands récits qui ont égaré nos ancêtres. Nous, qui sommes beaucoup plus malins, n'avons pas la faiblesse de succomber à pareil faribole. La cause serait entendue, paraît-il, délivrons-nous de ces vieilleries qui nous ont fait tant de mal, et nous serons beaucoup plus intelligents. Ce n'est pas vraiment ce que j'observe. J'observe d'abord qu'en toute rigueur philosophique, il faudrait nous montrer, premièrement, que l'histoire n'existe pas, et secondement, qu'il est de toute façon impossible de la connaître. Entendons-nous sur connaître, connaître non pas au sens factuel du terme, au sens de la connaissance pratiquée par les historiens qui établissent la vérité des données du passé. Connaître au sens intellectuel, un connaître portant sur la possibilité de dégager du sens de ces enchaînements d'événements. J'attends ces démonstrations d'inexistence avec intérêt et je note qu'elles ne viennent guère. L'esprit postmoderne regarde ailleurs, mais n'a pas grand-chose à nous dire sur ce dont il détourne nos regards. J'observe ensuite que les prétendus sceptiques sont en fait des croyants qui s'ignorent ou qui ne s'avouent pas. Les grands récits prétendument répudiés reviennent sous la forme de passagers clandestins et dans des versions d'autant plus misérables qu'elles ne sont pas assumées. Il y a deux grands récits de substitution qui fonctionnent à plein dans notre univers intellectuel, le récit économique et le récit évolutionniste. Le récit économique comporte diverses versions, dont une version modérée. L'histoire humaine est tout simplement l'histoire des efforts pour accroître ses moyens de subsistance, pour devenir plus prospère, plus riche, vaincre la faim, la maladie, les maux inhérents à la condition humaine. Et puis, ce récit économique a une version radicale, axé sur la dénonciation des méfaits du capitalisme et de la loi de concentration du capital, disons aujourd'hui un marxisme très délavé. Le récit évolutionniste vient compléter agréablement ce récit économique. Ils sont faits pour s'ajuster aisément, puisque ce récit évolutionniste est axé sur les transformations induites justement dans le cas humain par le travail sur la nature et les interactions humaines. Ce récit évolutionniste est encore peu présent pour des raisons culturelles dans l'espace culturel européen, dans l'espace intellectuel européen, alors qu'il est hégémonique dans l'espace intellectuel nord-américain, mais le paradigme neurocognitiviste est en train de lui assurer de telles bases que nous pouvons nous attendre à son invasion prochaine. Je n'entre pas dans la discussion de ces philosophies de l'histoire clandestine. Nous aurons à y revenir pour essayer de comprendre ce qui les accrédite. Je me contente de relever au passage leur indigence au regard de leur grande devancière et de souligner le fait que leur présence doit bien répondre à un besoin. qu'est-ce que cette histoire qu'il est inutile de penser, mais à laquelle, malgré tout, on est obligé de faire appel pour se rendre minimalement compte de certaines dimensions de l'univers dans lequel nous évoluons. Eh bien, assumons ce besoin. Voilà tout mon programme. Toute ma démarche consiste à m'inscrire en faux contre cet esprit du temps et ce pseudo-scepticisme postmoderne. Oui, nous pouvons nous repérer dans l'histoire. En commençant par expliquer pourquoi cette question de l'histoire nous a saisis, voici deux siècles, alors qu'elle ne se posait pas avant. Oui, l'histoire existe. L'humanité est historique et politique. C'est sa spécificité. Oui, l'histoire est dans une certaine mesure connaissable et interprétable. De ce que les philosophies de l'histoire du XIXe siècle, surtout accessoirement du XXe siècle, ont montré des failles évidentes, il ne suit pas que la pensée de l'histoire est impossible. En tout cas, il faudrait le montrer, et non se contenter de le postuler. De ce que ces philosophies se sont révélées faillibles, il suit, à mon sens, qu'il faut tout simplement corriger ces erreurs. Je prétends proposer une pensée de l'histoire immunisée contre les défauts que l'on a pu, à juste titre, reprocher aux premières tentatives en ce sens. Je ne parle pas, vous le remarquerez, de philosophie de l'histoire, qui désigne en fait une forme de pensée bien déterminée, nous verrons laquelle, et une forme de pensée devenue, elle, effectivement obsolète. Nous verrons aussi pourquoi. Je me contente modestement de pensée de l'histoire. Nous ne pouvons pas nous passer de grands récits. Pour reprendre une dernière fois cette expression prétentieuse et niaise. Elle est, soit dit au passage, l'expression typique du demi-habile pascalien qu'incarne l'esprit postmoderne. Tâchons de faire en sorte simplement que ce grand récit soit aussi prudent, réfléchi, averti des périls, ouvert à la réfutation autant que possible. C'est à ces exigences, en tout cas, que je me suis efforcé d'obéir dans l'analyse de la modernité et de sa configuration actuelle, qu'il nous revient aujourd'hui de conclure. L'entreprise bute sur deux obstacles. J'ai mentionné le premier, à savoir le scepticisme postmoderne, mais il y en a un second auquel j'ai fait incidemment allusion, mais qu'il est nécessaire de développer un peu plus, parce qu'il conditionne la possibilité même de l'entreprise. Nos sociétés sont sous l'emprise d'un préjugé enraciné à leur propre sujet et à l'égard du fonctionnement des sociétés en général, qui les ferme irrémédiablement à l'intelligence du passé et d'elle-même, de leur architecture véritable. Ce préjugé se résume dans un mot, l'économicisme, ou pour le dire plus précisément encore, le primat de l'infrastructure matérielle. Marx a gagné. Il a gagné intellectuellement autant qu'il a perdu politiquement. Il a gagné à un point qu'il l'aurait surpris lui-même. Le renversement matérialiste pour lequel il a bataillé sa vie durant est devenu le sens commun de nos sociétés, l'axiome de base de la vision qu'elles ont d'elles-mêmes, et le principal obstacle désormais à l'intelligence de leur fonctionnement. L'illusion par excellence sur leur organisation et l'écran qui les coupe du passé humain, qui leur interdit de comprendre rétrospectivement l'histoire dont elles procèdent. En remettant sur ses pieds la dialectique hegélienne qui, selon lui, marchait sur la tête, Marx n'a fait qu'accompagner le mouvement réel de la société de son temps, ce que je propose d'appeler le renversement libéral. Oui, l'idéalisme, si l'on veut, était bien la vérité des anciens pouvoirs rendus obsolètes par le mouvement moderne. Entendons par idéalisme, mot dangereux, l'essence religieuse de ces pouvoirs supposés relayer d'une manière ou d'une autre le fondement divin de l'ordre social. Ce qui se traduisait dans une primauté ordonnatrice du politique, appuyée sur une légitimité surnaturelle. Dans l'espace européen moderne, en effet, la primauté du politique se dégage sur fond de légitimation religieuse. Voilà quelle restait la formule des pouvoirs. Une formule qui va porter son ombre longtemps dans le XIXe siècle encore. À cette primauté ordonnatrice du politique, le mouvement moderne substitue le primat de la société. Une société civile autonomisée par rapport au pouvoir, pouvoir qui trouve sa légitimité en bas dans la représentation de cette société. L'erreur d'appréciation de Marx, parfaitement compréhensible dans son contexte, et d'avoir cru que cet idéalisme des pouvoirs et du complexe idéologique qui les entourait, qu'il trouvait dans la société de son temps, était le mensonge obligé et constitutif de la société bourgeoise. Alors qu'il n'était qu'un phénomène de transition historique entre une formule politique certes enracinée, mais dépassée, et une formule libérale beaucoup plus adéquate à l'organisation capitaliste et bourgeoise. Une formule que capitalistes et bourgeois allaient épouser d'enthousiasme le moment venu, en fonction du déploiement de leur monde en se ralliant à la thèse du primat du développement des forces productives comme moteur de l'histoire et de la société. Ce matérialisme, pour reprendre le mot, les termes mêmes de Marx, ce matérialisme historique qui pouvait encore passer pour révolutionnaire en 1883, quand Marx meurt, est devenu le catéchisme de l'univers capitaliste et bourgeois. Il n'y a plus de révolution au programme, c'est là que Marx a perdu politiquement, mais la vision économique du monde l'a emporté sur toute la ligne. Elle est la prison mentale dont nous avons à nous libérer. Ce n'est pas que cette vision n'ait de fortes apparences pour elle. La thèse n'est pas sans fondement. Comme la plupart des préjugés enracinés, elle capte quelque chose de la réalité, singulièrement aujourd'hui. Elle correspond à de certains égards à la structure de nos sociétés, nous y reviendrons, dont l'une des fortes caractéristiques est justement la séparation de la société d'avec l'instance politique. Et l'autonomisation à l'intérieur de la société civile d'un secteur économique doté dans une certaine mesure d'autorégulation par les mécanismes du marché. Secteur indépendant dont la dynamique auto-entretenue a des effets d'entraînement considérables sur l'ensemble de la vie collective qui songerait à le nier. Mais, pour rappeler une proposition épistémologique là aussi très élémentaire, la science ne consiste pas, que l'on sache, à entériner les apparences. Elle consiste à les sauver en les expliquant, ce qui suppose de prendre un peu de distance avec elles. Ce qu'il faut expliquer, c'est cette structure d'ensemble donnant la première place à l'activité économique. Elle ne l'a pas d'elle-même, elle lui est donnée. Encore faut-il se demander pourquoi. C'est l'économie, pour tout dire, n'est pas, le dire encore autrement, n'est pas ce qui explique la structure d'ensemble, elle est ce qu'il faut expliquer. En répondant à la question, qu'est-ce qui permet dans l'organisation collective cette autonomisation relative du secteur économique? Et à quoi répond-elle? Encore cet économicisme fonctionne-t-il à peu près, sur le plan des apparences tout au moins, pour les sociétés contemporaines depuis le XIXe siècle, en fonction de ces propriétés de structure que je viens d'évoquer. Mais il est totalement inopérant lorsqu'on le projette sur les sociétés du passé. Je ne reviens pas sur une démonstration qui a été 20 fois, 100 fois faite et bien faite. La grille de lecture économique ne rend compte en rien de l'organisation et du fonctionnement des sociétés anciennes. Les anciens combattants qui ont pâli sur les problèmes du mode de production féodal ou du mode de production asiatique peuvent témoigner du labyrinthe où ces tentatives nous embarquent. Bien entendu que toutes les sociétés obéissent à la contrainte d'assurer la subsistance de leurs membres. Toutes les sociétés, en ce sens, sont économiques, à ce titre. Il faut bien vivre. la périodisation de l'histoire humaine par mode de subsistance n'est pas la plus absurde. Tellement, en effet, les modes de subsistance exercent de contraintes sur l'organisation collective, des limites, des possibles et des impossibles. Il y en a eu trois, vous le savez tous. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les sociétés agricoles postérieures à la révolution néolithique, depuis quelques 10 000 ans, et la toute récente société industrielle. Pour autant, il suffit d'en mentionner les entrées principales pour s'en apercevoir, cette périodisation ne nous avance guère dans l'intelligence de ce qui s'est passé dans le cours de l'histoire humaine et de la manière dont s'organisaient les sociétés. La manière dont elles s'accommodaient en particulier de cette contrainte de subsistance et la façon dont elles l'aménageaient. Pour le dire d'un mot, la priorité manifeste au-delà et par-dessus cette contrainte de subsistance dont témoigne l'histoire humaine, la priorité manifeste de toutes les sociétés jusqu'à la nôtre a été de faire exister la société, fût-ce parfois aux dépens de l'existence des individus membres de ces sociétés, ce qui n'est pas le trait le moins extraordinaire de la chose. Concluons là-dessus, le préalable à toute avancée dans la reconstruction d'une pensée de l'histoire est le renversement de ce renversement matérialiste qui nous enferme dans un piège intellectuellement mortel. Il ne s'agit évidemment pas de remettre sur la tête ce que Marx voulait replacer sur ses pieds. Il s'agit de sortir de cette alternative de la tête et des pieds, qui est totalement inadéquate. Il s'agit de sortir de cette bataille illusoire et ruineuse de l'idéalisme et du matérialisme, qui est une problématique entièrement trompeuse. Ce n'est pas de cette façon que les choses se passent, mais même si ici ou là, elles peuvent paraître recouper ces apparences pour des raisons explicables, ce n'est jamais de cette façon, dans les sociétés du passé comme dans la nôtre, que les choses se sont passées. Pour ce qui nous intéresse directement ici, la pensée de l'histoire capable d'éclairer la situation présente me semble se résumer en 3 points. Premier point, le phénomène primordial de l'histoire humaine, c'est la religion. Pourquoi la religion et qu'est-ce que la religion? Voilà les questions prioritaires d'une pensée de l'histoire digne de ce nom. Si l'on n'a rien à dire là-dessus, je crois que l'intelligence de l'aventure humaine vous est fermée. La religion est à entendre dans l'essentiel de l'histoire, 99,9% du temps humain, aux antipodes de la manière dont nous l'entendons, nous, modernes, sur la foi de ce qui en reste dans notre monde. Pour nous, la religion, la réponse est très simple, ce sont des croyances personnelles qui se traduisent en conduite et en institution. pour les sociétés du passé, et encore une fois, de la quasi-totalité du passé humain, la religion, c'est bien autre chose où la croyance est requise, mais marginale. C'est une organisation collective. La religion a été primordialement un mode de structuration des communautés humaines. Voilà le fait premier auquel il faut remonter. Non pas les modes de production, mais les modes de structuration de l'existence collective. Ce mode religieux de structuration des communautés humaines dans leur globalité est très précisément défini dans ses rouages essentiels, même s'il s'accommode d'une multitude de traductions culturelles et civilisationnelles. Il se ramène à quatre traits que je résume succinctement. Tradition. Tradition, c'est-à-dire non pas folklore du type de celui qui nous reste familier. Tradition au sens de l'identité des communautés dans le temps, au travers de l'obéissance au passé fondateur et à la loi de l'origine. Domination, c'est-à-dire unité du pouvoir et de la société dans la subordination au fondement surnaturel que le pouvoir répercute parmi les hommes. Hiérarchie, c'est-à-dire liaison des êtres, unité des supérieurs et des inférieurs par leur inégalité qui réfracte dans l'espace humain l'altérité du fondement surnaturel. Enfin, incorporation, c'est-à-dire union des atomes individuels avec leur communauté, assurée par leur soumission à la loi du tout dont ils font partie. Ce mode de structuration peut être dit dans la rigueur du terme hétéronome, puisqu'il correspond à l'application de la loi de l'autre, l'autre avec un grand A, l'autre surnaturel, dans l'ensemble des dimensions de la vie collective. Hétéronomie, cela doit s'entendre, production de l'unité collective par l'altérité invisible. Deuxième point, l'exception moderne, telle qu'elle prend son essor en Europe à partir du XVIe siècle, exception puisqu'elle ne correspond à aucun plan préétabli de l'histoire universelle et à aucune nécessité de son développement, cette exception moderne consiste dans la sortie de la religion. Entendu, là aussi, au-delà de la sphère de la croyance, comme l'élaboration et la constitution d'un mode de structuration alternatif par rapport à la structuration hétéronome. Genre, on évoque rapidement les traits, l'individualisme à la place de l'incorporation holiste, l'égalité à la place de la hiérarchie, la représentation à la place de la domination, l'invention de l'avenir à la place de l'assujettissement à la tradition. Un mode de structuration que l'on peut dire à bon droit autonome, puisque tout à la fois il consacre l'indépendance des personnes par rapport à leur groupe, la capacité des communautés humaines de se donner leur propre loi, et davantage encore, leur puissance d'inventer et de produire leur propre monde. L'un des intérêts de la perspective est de permettre une définition rigoureuse et systématique de la modernité. De ces termes dont l'élasticité n'est pas à souligner, mais que l'on peut, peut-être à partir de là, enfermer dans des bornes nettes, en appréhendant la cohérence de ces diverses dimensions par rapport à des approches qui peuvent être pertinentes dans leur registre, mais qui se focalisent sur l'une ou l'autre de ces dimensions en oubliant leur lien avec le reste. Pour prendre les choses sous un autre angle plus historique, moins typologique, la révolution moderne comporte trois composantes structurelles à partir desquelles nous allons retrouver ces différents traits. Elle commence par l'émergence de sa composante politique, la forme État-nation, totalement originale par rapport aux formes politiques antérieurement connues, l'empire, la nation, la tribu, la cité, la tribu, le royaume. Pour reprendre simplement les dénominations occidentales, l'État commence à émerger dans son principe et dans sa notion autour de 1600, au terme d'un siècle marqué par la révolution religieuse de la Réforme et les conflits auxquels elle donne lieu. Il émerge parallèlement à la révolution intellectuelle de la science galiléenne qui ouvre des horizons radicalement inédits à la pensée. Descartes étant le premier à enregistrer le séisme dans l'idée de la connaissance et au-delà dans l'idée de l'homme qu'implique la révolution scientifique. L'État, comme concept, tout simplement, donc autour de 1600, la nation des citoyens, quant à elle, arrive à l'ordre du jour plus tard, deux siècles bientôt après, avec la Révolution française, pour prendre le repère conventionnel le plus commode. l'émergence de la nation est pour partie le contre-coup et la traduction politique de la deuxième composante de la modernité, sa composante juridique. La révolution moderne passe par l'invention d'un nouveau principe de légitimité, qui est en même temps un principe de composition des collectifs. Ce qu'on va appeler, bien après les droits de l'homme, à la fin du XVIIIe siècle, au terme d'une élaboration d'un siècle et demi, au lieu de penser la légitimité à partir de son foyer transcendant, comme c'était le cas à l'intérieur de la structuration hétéronome, quelle que soit la manière de concevoir cette transcendance, on va la penser, cette légitimité, selon l'immanence. Au lieu de la penser sous les traits d'un ordre collectif, on va la penser à partir des droits premiers détenus par les individus sur la base de l'indépendance originelle présumée de ces individus, sur la base de leur égale liberté. Le collectif cesse de précéder et de dominer les composantes individuelles, ce sont les composantes individuelles qui précèdent le tout, avec les droits qu'elles tirent de leur indépendance native, de telle sorte que le collectif est supposé résulter de l'accord de ses composantes et de la mise en commun de leurs droits. Il ne s'agit au départ que d'une spéculation ou d'une fiction théorique, mais c'est l'une des choses les plus remarquables de l'histoire moderne. Cette fiction va finir par se concrétiser d'une certaine manière dans la révolution des droits de l'homme sous la forme des droits personnels et des droits politiques des citoyens de participer à la formation du pouvoir et à la définition de la volonté générale législatrice. Troisième composante de la modernité, sa composante historique. Sa composante la moins reconnue et la moins comprise pour ce qu'elle est, en fonction justement de sa réduction économique, économiciste, pour être plus exact, et pseudo-matérialiste. Contre cette réduction, il faut la saisir dans sa globalité et sous son aspect de structuration collective. Ce dont il y va dans cette dimension spécifiquement historique de la modernité, c'est de la structuration temporelle de l'activité collective. Cette composante historique commence à émerger à partir de la mi-18e siècle sur la base de la critique de l'autorité des modèles du passé qui faisaient l'âme de la tradition hétéronome. Son principe premier s'énonce très simplement. Il est possible de faire mieux par la raison que ce dont nous avons hérité. Le modèle déterminant ici est celui de la connaissance scientifique et de ses progrès. La découverte est que le progrès ne s'arrête pas aux avancées des sciences face à un avenir ouvert dont l'ouverture nous garantit sur le terrain scientifique que nous pourrons en savoir davantage que nos devanciers. La propriété remarquable de la connaissance scientifique étant d'être cumulative. Ce qui n'était certes le cas ni de la théologie ni de la métaphysique. Le progrès s'applique à l'ensemble des domaines de la vie humaine et sociale. Par le travail d'élucidation et de transformation des choses existantes, quelles qu'elles soient, il est possible d'améliorer, de perfectionner les conditions de l'existence personnelle et collective, qu'il s'agisse des lois, des institutions, ou encore des techniques et des objets. De proche en proche, d'élargissement en élargissement, c'est un processus qui se laisse aisément reconstituer dans l'Europe du XVIIIe siècle, de proche en proche, on en arrive à l'idée qui fait faire un saut à l'intelligence du phénomène que le monde humain se produit lui-même dans le temps. Ce n'est pas simplement qu'il est susceptible d'amélioration, c'est qu'il est de part en part le fruit d'un travail qui le constitue dans son intégralité. C'est ici qu'on en arrive, autrement dit, au concept d'histoire. L'histoire avec un grand H, le concept synthétique du processus global à l'intérieur duquel s'insèrent toutes les histoires particulières. Le concept permettant ainsi de considérer l'ensemble de l'aventure humaine dans sa diversité d'expériences et de registres comme une somme d'efforts en vue de l'autoconstitution de l'humanité. Cette humanité qui est son œuvre à elle-même, comme dira Michelet, traduisant Vico. Il faut faire encore un pas de plus pour avoir la matrice logique des philosophies de l'histoire. Ce concept synthétique de l'histoire, l'histoire au singulier, l'histoire qui englobe toutes les histoires, ce concept ainsi construit implique, on le découvre tout de suite, une différence marquée entre le passé, le présent et l'avenir. Ce concept d'histoire repose, en fait, sur une consécration du présent. le présent comme le moment de la découverte de l'histoire et de l'historicité, précisément. Le moment de la prise de conscience de l'historicité intrinsèque du monde humain, grâce au développement de la raison. C'est là où on voit aussi le lien entre la manière dont la pensée des Lumières, de son rationalisme critique, débouche de façon très logique sur une vision historique de la raison. Par contraste avec ce moment de ressaisie, le passé apparaît comme le temps de l'inconscience, de la spontanéité qui s'ignore. Le passé est ce temps divers où l'effort humain vers l'amélioration de son sort se méconnaît pour l'essentiel. Ce qui, dans une vision éclairée de base, en fait le temps du préjugé par opposition au temps de la raison qu'est le présent. À partir de ce contraste entre passé et présent, il est permis de projeter un avenir qui serait celui de la toute conscience par développement systématique du commencement de conscience dont le présent est le théâtre. Un avenir qui serait celui de la systématisation de ce travail de production de soi et de l'entrée de l'humanité en pleine possession d'elle-même. Comment, ensuite, qu'on doive la concevoir. Vous avez là le schéma de base sur lequel les diverses philosophies de l'histoire vont produire leurs variations et leurs promesses. Et il faudra se souvenir de ce schéma de base pour comprendre la rupture dont nous sommes témoins, qui a effectivement rendu ce schéma de pensée intenable et qui nous oblige à reprendre la question d'une toute autre manière. Raison pour laquelle, comme je vous le disais, je pense préférable d'éviter cette expression, bien qu'après tout, elle ne soit pas dommageable, de philosophie de l'histoire, mais elle prête évidemment, en fonction de cette rupture, à confusion. Ce qui achèvera, bien entendu, de donner son épaisseur et cette vigueur à cette perspective historique, c'est la révolution industrielle, qui apporte sa concrétisation matérielle à l'idée d'une autoproduction du monde humain. Elle n'en est en fait qu'une exemplification, mais c'est une exemplification qui va tendre à dévorer l'entièreté du phénomène. C'est notre problème. Mais la conséquence cruciale de ce basculement pratique vers l'avenir à produire, vers l'histoire à faire, c'est le changement de structure qu'il entraîne au sein des communautés humaines. J'y insiste, quand on parle d'émergence de la conscience historique, on pense toujours histoire, connaissance du passé. Mais en l'occurrence, émergence de la conscience historique, c'est émergence de l'avenir, et de l'avenir à faire pratiquement, dont la prise de conscience de l'histoire au passé et la connaissance historique moderne telle que nous la connaissons n'est que le contre-coup. Voilà, c'est un des obstacles à lever pour avoir la bonne notion de ce qu'est la société de l'histoire à l'intérieur de laquelle nous évoluons. Ce basculement pratique vers l'avenir, l'avenir à produire, encore une fois, ou à inventer, a pour effet de dissocier la société de ce qu'on se met à appeler la société civile. C'est une vieille notion, mais qui prend là une signification nouvelle. La vie de ce qu'on appelait jusque-là, non pas des sociétés, mais des corps politiques, reposait sur l'union du pouvoir législateur et des corps sociaux composant la collectivité, qu'il s'agisse des familles, des corporations, des ordres, des rangs. La vie collective était suspendue, en d'autres termes, au primat ordonnateur du politique. Et à cet ordre que seule la volonté supérieure d'un pouvoir légitimé de plus haut encore faisait prévaloir. La découverte de l'histoire, la découverte de la valeur inventive et productive du travail humain modifie radicalement la donne. Le cœur de la vie collective, ce ne peut être dès lors l'effort de mise en ordre de la collectivité par en haut, c'est la dynamique qui naît des libres initiatives et des échanges entre les individus, par en bas. La consécration de la liberté est venue de la découverte du pouvoir d'histoire de cette liberté. C'est la clé de l'intelligence, de la dimension libérale de notre univers. C'est de là que sort en effet le renversement libéral que j'évoquais plus haut, qui trouve son expression irrévocable en Europe avec les révolutions de 1848, qui mettent à bas les pouvoirs conservateurs, idéalistes, comme aurait dit Marx, qui subsistaient à peu près partout dans le paysage. Si l'essentiel de la vie collective, c'est sa puissance de mouvement, d'invention d'elle-même, il faut les laisser aussi libres que possible, en dégageant la sphère des interactions entre acteurs sociaux de l'étreinte réglementaire de l'État. Celui, l'auteur qui donnera probablement la meilleure formulation très tôt, dès 1820, de ce trait, c'est Auguste Comte. Le pouvoir est stationnaire quand la société est progressive. Donc, on ne peut pas faire dominer une société progressive par un pouvoir stationnaire. Il faut changer l'ordre des priorités. L'histoire suppose de reconnaître l'indépendance de la société civile constituée sur la base des libres accords, contrats et transactions entre personnes privées. Cela change, par contre-coup, l'idée du pouvoir. Il n'a plus à être ce facteur d'ordre surplombant la société. Il n'a de sens qu'à être au service du dynamisme collectif. Ce qu'il ne peut valablement être qu'en se faisant la représentation des besoins, des intérêts, des opinions qui s'expriment dans la société civile. Primauté de la société au titre de sa puissance d'histoire veut dire gouvernement représentatif. Et, événement non négligeable, émergence de la politique comme distincte du politique. La politique, c'est-à-dire cette sphère gravitant autour de la formation et du fonctionnement du pouvoir représentatif, qui inclut aussi bien le personnel politique, non seulement des élus mais des candidats, ne l'oublions pas, qui sont toujours en plus grand nombre, ô combien que les élus, et tout ce qu'ils peuvent trouver comme support dans la société, des partis, des comités, des associations de citoyens en vue de la pesée sur le pouvoir, et aussi tous les contre-pouvoirs, le pouvoir de la presse et des médias, qu'on n'appelle pas encore de cette façon au moment de cette naissance, qui permettent aux citoyens de garder le contact avec ce qui se passe dans la sphère de la représentation politique. Voilà ce qu'est la politique. Invention moderne en ce sens, même si on peut en effet, ou à Athènes ou à Rome, lui trouver des antécédents limités. On doit parler en ce sens d'une structure libérale de la société de l'histoire. Structure en fonction de laquelle se distribuent les divers éléments de la structuration autonome. L'orientation, cela même que j'énonçais tout à l'heure, l'orientation pratique et productive vers l'avenir, la priorité des droits individuels, l'égalité entre les individus et le pouvoir comme représentation de la société, au lieu d'être domination de la société au nom de l'autre qui la justifie. C'est encore une fois la discontinuité historique qui permet de comprendre la victoire des principes libéraux dont on va chercher les racines au XVIIe ou au XVIIIe siècle. C'est par l'histoire que ces principes se sont imposés. C'est évidemment l'erreur de perspective de conclure du dégagement de ces principes à une application qui se serait faite liénairement. Elle aurait très bien pu ne pas avoir lieu, n'était. Cette introduction de la dimension historique à l'intérieur de laquelle s'est installé l'univers libéral, qui, très généralement, ignore d'ailleurs cette condition de possibilité qui lui est faite. Troisième point, après la caractérisation de la structuration hétéronome qui a dominé la plus grande partie du passé humain, et après la caractérisation de la structuration autonome qui s'invente au sein de la modernité, troisième point, notre présent. Dans cette trajectoire moderne, que s'est-il passé de spécifique au cours des dernières décennies ? Où en sommes-nous de ce processus de 5 siècles ? Pour le dire en peu de mots, dans le style de thèse schématique qui est par nécessité celui de cette introduction, ce qui s'est joué depuis le tournant des années 1970, c'est le parachèvement ou l'aboutissement du processus de sortie de la religion. Parachèvement qui a débouché sur une radicalisation structurelle de la modernité. Voilà, à mon sens, le propre de notre situation et l'idée la mieux à même de la rendre intelligible dans ses différentes dimensions, jusqu'à ce qu'on en propose une meilleure. En effet, ce lent passage, hein, 5 siècles, là on est effectivement dans la longue durée affectionnée dans cette maison, ce lent passage de la structuration hétéronome à la structuration autonome s'est effectué d'un bout à l'autre, jusque tout près de nous, sous le signe de la prégnance de l'ordre hétéronome. Et cela se conçoit. L'autonomie structurelle a dû se constituer à l'intérieur de l'ordre hétéronome, en s'appuyant sur elle et en lui empruntant une part de ses traits, même lorsqu'elle en prenait le contre-pied. De telle sorte que nous n'avons eu affaire jusqu'à une date toute récente, qu'à des mixtes, qu'à des mélanges, qu'à des formations de compromis, sans cesse en train de se recomposer entre autonomie et hétéronomie, en fonction des avancées de la structuration autonome, mais d'une rémanence constamment réinventée de la structuration hétéronome, ce qui fait toute la difficulté de déchiffrement de l'histoire moderne, qui est en fait une histoire entre enchevêtrée, emmêlée, conflictuelle, où des principes antagonistes ne cessent de se combattre au sein de leur alliance. Pas toujours simple à débrouiller. Pour reprendre les éléments que j'énonçais à l'instant. Le pouvoir par représentation restait pénétré de l'esprit du pouvoir par domination. Bien qu'émanant d'en bas, il conservait l'allure et les formes d'un pouvoir d'imposition autoritaire par en bas. De la même façon, l'indépendance individuelle restait marquée et limitée par l'incorporation collective. Elle demeurait une indépendance sur fond d'appartenance. En dépit de l'égalité entre les êtres, les rapports sociaux restaient imprégnés de dépendance hiérarchique, sans parler des foyers où cette dépendance hiérarchique dans la vie sociale continuait de s'exprimer de manière directe, au premier rang desquels la famille, l'institution de la hiérarchie des sexes et des générations. L'orientation historique s'inscrivait en fait à l'intérieur du moule de la tradition et de l'unité des temps qui était sa force, que c'était sa force prodigieuse de garantir. Dans l'univers de la tradition, en effet, ce qui a été, pas n'importe quand, à l'origine, ce qui a été est et sera garanti d'un monde stable. L'histoire avec un grand H, oblige à incorporer à l'intérieur de cette unité la dimension du développement, mais elle reprend la substance de l'unité des temps définie par l'univers de la tradition. C'est limpide dans les philosophies de l'histoire classique. Ce qui sera à la fin de l'histoire, que cette fin de l'histoire soit ici et maintenant ou dans un futur plus ou moins éloigné, ce qui sera à la fin de l'histoire ne sera jamais que le déploiement complet, conscient et maîtrisé de ce qui était obscurément en germe au commencement de l'histoire. Le communisme de la fin de l'histoire ne sera autre chose que le communisme primitif élevé à sa puissance supérieure. Pour prendre l'expression la plus fameuse de cette idée. Ces combinaisons contradictoires d'autonomie et d'hétéronomie justifie de parler d'une transition moderne. Nous en avons eu une dernière manifestation particulièrement énigmatique et monstrueuse au XXe siècle sous l'aspect des phénomènes totalitaires. Ils ne sont intelligibles, en dernier ressort, que comme des résurgences de la structuration hétéronome à l'intérieur et à partir de l'univers autonome, dans leurs deux versions antagonistes. Version communiste, stalinienne, le projet d'autonomie par les moyens de l'hétéronomie, réinventé, version nazie, pour prendre l'extrême opposé, et non l'expression de moindre radicalité que cette même vision totalitaire a pu trouver à l'extrême droite, l'hétéronomie, le vieil univers de la domination, mais par les moyens de l'autonomie. Voilà ce qui c'est, l'ultime expression qu'a trouvée cette transition moderne, comme dans le phénomène politique mystérieux des totalitarismes. Eh bien, je crois que nous pouvons dire que c'est la fin de cette transition moderne que nous sommes en train de vivre. Ce qui subsistait d'empreinte de l'ordre hétéronome s'est volatilisé. Nous en reverrons plus en détail les différentes expressions dans les différents registres de l'existence collective. Et du même coup, les rouages, les différents rouages de la structuration autonome ont pu se déployer entièrement. D'où radicalisation structurelle de la modernité, non pas simplement radicalisation des principes de la modernité, radicalisation de la constitution du monde humain selon le droit, le politique et l'histoire. Mais dans l'opération, ces rouages de la structuration autonome sont devenus méconnaissables par rapport aux traits que sous lesquels nous avions l'habitude de les identifier, qu'il s'agisse du politique, de l'histoire ou du droit. L'illisibilité du moment actuel, relevée par tous les observateurs sensés, n'a pas d'autre source. Ce que nous pensions connaître a changé de visage. Et nous devons en réapprendre le visage. Quand je parle donc d'aboutissement de la sortie de la religion, il faut bien souligner, car le terme est dangereux, que cet aboutissement n'a rien à voir avec une quelconque fin de l'histoire du type de celle que prévoyaient chacune à leur façon les philosophies classiques de l'histoire. Cet aboutissement du processus de sortie de la religion ne débouche certes pas sur une transparence de l'humanité à elle-même dans la pleine conscience de sa nature et de son destin, mais tout le contraire. Jamais à ce point, sans doute, nous n'avons avancé dans les ténèbres. Et jamais nous n'avons été à ce point intellectuellement désarmés face à ce qui nous arrive. Ce n'est pas davantage sur le fond, et non plus simplement sur la forme, à une conclusion ou à un épisode terminal de l'histoire que nous avons affaire, mais à sa relance sur d'autres bases. Quoi qu'elle devienne, quoi qu'elle doive devenir, elle sera faite d'autres éléments que ceux avec lesquels elle s'est tant bien que mal composée jusqu'à présent. Relance d'autant plus que cet aboutissement nous plonge dans une crise de la démocratie. C'est le quatrième point qu'il faut ajouter aux trois précédents et qui nous occupera au cours de cette année. C'est le paradoxe saisissant de la situation actuelle. D'un côté, elle est faite du déploiement complet de la structuration autonome. L'autonomie structurelle est, sinon réalisée, du moins en passe de l'être. Et à l'échelle, c'est là où il faut être prudent, planétaire, pas simplement le petit continent européen à l'intérieur duquel elle avait pris son essor initial. Mais de l'autre côté, cette autonomie structurelle, contrairement à sa promesse, ne nous livre aucunement la maîtrise de notre monde. Qu'est-ce qu'une autonomie que nous ne maîtrisons pas ? Voilà la question qui nous est posée par la situation actuelle des démocraties. À l'opposé même de cette maîtrise, elle nous dérobe notre monde, elle nous le rend d'une certaine manière étranger. Elle nous en dépossède. Pourquoi ? Voilà ce qu'il s'agit d'essayer de clarifier. Notre présent nous installe dans une contradiction béante entre l'ordre autonome tel qu'il fonctionne, et l'autonomie comme idéal. Tout simplement l'autogouvernement de la communauté humaine. De cet autogouvernement, nous n'avons jamais été aussi proches sur le plan des règles théoriques du fonctionnement de nos sociétés et sur le plan des moyens dont nous disposons de réaliser ces règles. Et cependant, nous en sommes infiniment loin en pratique. Comment cela peut-il se faire ? C'est cette contradiction qui justifie proprement de parler de crise de la démocratie. Nous pouvons d'ailleurs préciser un peu plus, dès maintenant, la teneur de cette contradiction, en des termes qui permettent de comprendre, en même temps, la raison pour laquelle nous nous accommodons de cette contradiction, qui après tout devrait normalement secouer les consciences. Eh bien non. Elles ont l'air relativement tranquilles, en dépit de sporadiques ébullitions. Nous avons donc d'un côté l'autonomie structurelle, nous en détaillerons plus précisément les traits, et à l'intérieur de cette autonomie structurelle, sur le plan existentiel maintenant, nous n'avons d'autre traduction vécue de cette autonomie que l'autonomie individuelle. L'autogouvernement, oui, mais de nous-mêmes, point. On conçoit facilement que la liberté immense que cela nous procure nous fasse nous accommoder des limites de l'autonomie collective, mais c'est en même temps une impasse. C'est ce dispositif ajustant une autonomie structurelle et le mirage intellectuel d'une autonomie qui pourrait être purement individuelle, qu'il s'agit de scruter pour comprendre comment, de la sorte, il ne nous laisse concevoir d'autres visions de l'autonomie que cette vision tronquée et trompeuse. Il va nous falloir, pour cela, détailler de manière circonstanciée, en même temps que synthétique, les rouages de la structuration autonome telle que nous les trouvons aujourd'hui dans le domaine politique, dans le domaine historique, dans le domaine juridique, et il nous faudra analyser la configuration globale de crise que ces rouages dessinent dans leur articulation actuelle. La question dernière étant, bien entendu, celle de l'au-delà possible de cette configuration. Les crises sont faites pour qu'on en sorte.
Au début de votre intervention, vous avez utilisé le terme « grand récit », à la fois pour ricaner un peu sur ce terme, vous avez d'abord demandé une question ponctuelle, qui a inventé ce terme de grand récit, comment est-il venu dans le débat, et puis, sur le fond, est-ce qu'aujourd'hui, pour sortir d'une crise de la démocratie, on n'aura pas besoin d'un nouveau grand récit ?
Je préférerais qu'on l'appelle autrement. Là. Ça ne me paraît pas la bonne manière de répondre à la question posée. Non, ponctuellement, c'est très facile à identifier. Je ne sais qui l'a inventé, cette expression, mais en tout cas, le livre qui l'a popularisé est, lui, bien facile à situer. C'est « La condition postmoderne » de Jean-François Lyotard, un livre qui est paru en 1979 et qui a eu une fortune mondiale, conceptuellement. Je ne suis pas sûr qu'il ait été très lu, en fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a mis dans la circulation quelques notions, dont celle de grands récits, qui ont connu une fortune extraordinaire.
Quel est le lien ou le rapport entre la représentation, donc une société... la représentation d'elle-même dont la société a besoin et la fonction symbolique de ce même besoin qui a disparu, enfin, en tout cas qui s'est caché.
Eh bien oui, un des aspects de la crise de la démocratie sur lequel tout le monde s'accorde à peu près, c'est justement la crise de la représentation. C'est une des choses sur lesquelles il faut arriver à mesurer ce que veut dire vraiment cette crise de la représentation. Cela revêt toute une hiérarchie d'acceptions qui vont, bien entendu, du fait que telle ou telle catégorie n'est pas suffisamment représentée dans les parlements, les femmes, les immigrés, les couches populaires, c'est une acception juste, c'est parfaitement vrai, mais une fois qu'on a répertorié ça, supposons qu'on fasse un panel parfaitement représentatif de la population française à l'Assemblée nationale, y aurait-il ou non encore crise de la représentation? Je crois qu'on peut répondre tout de suite, oui, ça ne changerait rien ultimement à la crise de la représentation qui est, comme vous le disiez, la possibilité pour une société de se faire une représentation d'elle-même qui puisse servir de table d'orientation, en quelque sorte, pour l'ensemble de ses membres. C'est cette représentation-là que, pour des raisons qu'il faudra examiner, nos sociétés n'arrivent plus à se fournir. Et il faut se demander comment, tant bien que mal, elles y parvenaient par le passé, ce qui est très intéressant à considérer. Oui, qu'est-ce qui se passe derrière cette notion de représentation qui est l'une des plus opaques, dès qu'on y réfléchit, du fonctionnement de nos sociétés?
Alors, trois questions rapidement. La première, vous avez placé le récit économique et le récit évolutionniste dans la catégorie grand récit de substitution. Pourquoi le terme de substitution? Pourquoi ne sont-ils pas des grands récits de ensuite, est-ce que vous pourriez fournir un ou des exemples précis de mise en défaut de l'économicisme dans la compréhension du monde contemporain? Et enfin, vous avez parlé de la périodisation en trois grands modes de production, chasseur-cueilleur.
De subsistance, c'est pas la même chose.
Elle a l'air quand même de correspondre à peu près à votre tripartition théologico-politique, la religion sans l'État, l'État avec la religion et le monde sans la religion, l'État sans la religion. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas là une congruence et quelque chose qui pourrait accréditer la thèse matérialiste que vous rejetez?
Alors, je laisserai de côté la question numéro 2 parce qu'elle demande un examen circonstancié en situation aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que, question concrète, est-ce que ce qui se passe dans la sphère économique, dans ce qu'on appelle le capitalisme et son développement, ses lois, etc., rend compte de la situation globale de nos sociétés? Voilà. Ça, c'est le. Par exemple. On verra ça plus en détail. Est-ce que le développement du capital explique un phénomène comme la mondialisation? Je crois pas du tout. Mais qu'il en profite, ça c'est certain. Que ça l'explique, c'est une autre chose. Et généralement, c'est la confusion de ces deux termes. Hein, on passe de la corrélation à la causalité, ce qui est un péché assez notoire dans les sciences en général et le raisonnement élémentaire tout simplement. Alors, pour commencer par votre dernière question, mais oui, il y a évidemment congruence. C'est pourquoi moi je ne dis pas balançons tout ça, on s'en fout. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faille considérer ces dimensions de la contrainte de subsistance comme nulles. À l'évidence, la révolution néolithique, puisqu'il est convenu de l'appeler comme ça, crée la condition de possibilité d'émergence des États, mais elle ne la provoque pas. La plupart des sociétés dites primitives ou sauvages que nous avons eu l'occasion de rencontrer depuis le XVIe siècle, et les grandes découvertes, sont des sociétés agricoles. Les chasseurs-cueilleurs, c'est une très petite proportion des sociétés primitives. Dites primitives. Mais la plupart de ces sociétés agricoles sont néanmoins des sociétés sans État. Elles vivent de l'agriculture, mais Ça n'a pas déclenché l'émergence des États. De la même façon, à l'autre bout de la chaîne, la révolution industrielle n'impliquait phénomène majeur qui ouvre, là aussi, je crois qu'il faut raisonner en termes d'ouverture de possibilités et de fermeture d'impossibilités. Mais à l'intérieur de ces possibilités, rien ne conduisait nécessairement au type de fonctionnement politique que nous pouvons observer dans les sociétés avancées d'aujourd'hui. Donc, c'est une base, et encore une fois, c'est une base en termes de possible et d'impossible, mais ça ne définit pas un déterminisme, même un déterminisme relâché, comme avec autonomie relative des différentes sphères. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. Pourquoi grand récit de substitution ? Parce que d'ailleurs, il se donne volontiers comme tel, tout simplement. Vous lisez les bons. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène très intéressant. Ce sont les économistes, essentiellement américains ou anglais, qui écrivent, qui sont en train de réécrire l'histoire comme théorie de l'histoire. Les historiens, eux, ils font leur truc très prudent, factuel. Mais vous avez effectivement c'est d'ailleurs souvent des livres extrêmement intéressants, aussi intéressants qu'ils sont faux, je dirais. C'est pas incompatible. Seuls des économistes se lancent aujourd'hui à l'abordage pour vous expliquer tranquillement l'origine du miracle européen. C'est le titre d'un des livres célèbres, vous connaissez sûrement, de la littérature récente. Et il y a toute une série de... Seuls des économistes, regardez un auteur qui n'est pas tout à fait un économiste, mais qui est un auteur de référence chez les économistes comme Jared Diamond. Eh bien oui, lui, il n'hésite pas, mais c'est une vision totalement économique du monde. Donc, c'est comme si ce n'était qu'à partir de là qu'on pouvait embrasser d'un large regard le parcours humain, y compris les événements qui nous concernent le plus, comme la bifurcation occidentale. C'est bien. Et en général, tous ces auteurs, précisément, vont dans le sens d'une substitution, nous disant, enlevons toutes ces conneries écrites par des philosophes allemands auxquels on comprend rien d'ailleurs, tout ça ne nous mène nulle part, nous... On s'appuie sur des faits sérieux, des séries statistiques de longue durée, on va vous montrer que. Et quant au récit évolutionniste, je ne peux mieux vous renvoyer qu'à l'auteur qui a magnifié philosophiquement le récit évolutionniste, qui est Michel Serres, il reprend à son compte l'expression du grand récit, qui est en fait non pas seulement évolutionniste dans son esprit, mais naturaliste. Lui, avec l'idée... Mais toutes ces philosophies de l'histoire, c'est provincial, c'est local, c'est tout petit. On commence au Big Bang. Après, il y a l'émergence de la vie, l'Homo sapiens. Et puis, ça, c'est un vrai grand récit. Avec vraie longue durée. On y va en millions d'années, carrément. Mais il le donne comme destiné à supplanter, à remplacer. Et il va très loin, puisque lui, il propose d'apprendre ça aux enfants des écoles en disant « ça sert à rien d'apprendre toutes ces conneries, Marignan, la Révolution française, aucun intérêt, occupons-nous des choses sérieuses, le Big Bang, la vie et l'évolution, ça c'est du sérieux. » Bien la substitution.
Ce n'est peut-être pas votre objet, mais... Vous pensez que la psychanalyse a joué un rôle dans ce mirage, l'autonomie structurelle et l'autonomie individuelle, que ce mythe finalement qu'on semblait définir de l'auto-gouvernement. Et est-ce que vous la rangeriez du côté de certaines philosophies d'histoire?
Non, je ne la mettrai pas du côté d'une philosophie d'histoire, mais le point que vous soulevez, je crois, peu discutable, la psychanalyse a fonctionné socialement, indépendamment des intentions de son fondateur et de ses praticiens, comme un des éléments du dispositif d'individualisation de nos sociétés. Paraît ces jours-ci un petit livre d'un psychanalyste autocritique, ça arrive, qui s'appelle « L'autodestruction du mouvement psychanalytique » que je vous recommande et qui met, je crois, très bien ce trait en lumière. Un rôle tout à fait essentiel. On verra si vous me laissez un peu de temps pour arriver jusque-là. Je pense que c'est en effet, là aussi, un changement structurel d'une certaine manière équivalent à ce qui s'est passé au début du XIXe siècle avec l'émergence de la société civile et de la dissociation de la société civile et de l'État. Il est apparu une sphère de la qu'on appelle espace public, on ne sait pas bien la dénommer à la vérité, mais qui s'est complètement autonomisé dans la vie sociale et qui tient un rôle crucial sur tous les plans. Ça, c'est un des éléments de la situation actuelle qu'on regardera d'un peu plus près.
Ça m'a frappé la difficulté. Tocqueville relevait dans son livre sur la démocratie de l'Amérique un des écueils qui était la dictature du cours de la majorité sur la minorité. De notre point de vue de nos jours, est-ce que nous n'assistons pas en échelon supplémentaire de la seule possibilité d'autogouvernement individuel, le renversement de cela, c'est-à-dire des dictatures des minorités sur des majorités ou du collectif possible plus général?
Phénoménologiquement, du point de vue de la description, vous avez évidemment raison, la tyrannie des minorités a remplacé la tyrannie de la majorité. Mais dans cette proposition, il faut mettre un bémol important. C'est que ce qui permet à ces tyrannies des minorités de s'exercer, c'est qu'elles expriment un consensus majoritaire quant aux principes dont elles se réclament. Et que donc, elles ont une efficacité redoutable. Ce n'est pas en tant que minorité simple qu'elles sont capables de peser fort sur l'espace public, c'est parce qu'elles sont le relais de conviction, de représentation d'un système de valeurs qui, lui, fait très largement consensus, qui fait que les majorités sont désarmées devant ces minorités.
Vous semblez penser que vu comment la structuration autonome se fait à l'échelle planétaire, enfin, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez le sentiment que des sociétés comme la société chinoise, la société japonaise, par exemple, peuvent être analysées sur la base de la grille de lecture
Oui, je pense. Simplement, elles importent un mode de structuration qui entre en collision considérable avec leur héritage historique. C'est pas incompatible. Alors, ça détermine une partie de la suite. Ça, on le verra plus précisément. Évidemment que les points de départ sont très différents, mais elles entrent, volens nolens, dans la structuration autonome. Et c'est à partir de là qu'il faut les comprendre. Et en comprenant la nature de la contrainte qui s'exerce là, très précisément.
Moi, j'ai toujours été frappé par la difficulté, par exemple, pour expliquer aux étudiants cette idée de la toute-conscience, de l'esprit absolu, ou comment les philosophies de l'histoire débouchent. J'ai l'impression que c'est presque impossible de faire comprendre. On a l'impression, on reste ahuri devant comment a-t-on pu penser quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut absolument rien dire. Et c'est vraiment, même en passant par les auteurs ou par la théologie, je trouve que c'est quelque chose.
Je crois en effet que ça touche même la théologie. L'idée du Dieu omniscient est sûrement une thèse aujourd'hui très difficile à faire comprendre, même à des étudiants en théologie très convaincus. Dieu est sympa. Voilà le truc. Il veut notre bien, mais le reste, omniscience, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais je crois qu'il s'est passé quelque chose, tout simplement. En effet, parce qu'il y a 50 ans, je crois pouvoir en témoigner, c'est cette idée qui enthousiasmait les mêmes étudiants. La conversion au marxisme se faisait là-dessus. D'ailleurs, c'est dit je ne sais pas si ce texte, et j'en ai pas l'expérience, mais il y a des gens qui peuvent mieux répondre que moi. Ce texte avait une capacité de susciter l'enthousiasme qui tenait à cette vision de l'émergence d'une conscience et d'une maîtrise de l'humanité par elle-même qui avait une sorte d'évidence qu'il l'a eu pour des générations. Souvent, il s'arrêtait là. Après, c'est justement, ça devient compliqué pour des tas. Mais la perspective, elle est claire. Pourquoi cette perspective s'est-elle à ce point brouillée? Parce que je crois que vous avez tout à fait raison dans la description. C'est des maboules. Ou c'est pour les besoins de la cause. Alors c'est une construction théorique chez les esprits plus sophistiqués qui ne renvoie à rien. Mais si, c'était existentiellement vécu. Mais ça ne touche pas, notez bien, ni que la philosophie ou la théologie. Je pense qu'une grande part du crédit de la psychanalyse dans notre culture au début du XXe siècle, jusque dans les années 50-60, tenait au fait que c'est en fait une doctrine qui s'inspire des mêmes schémas théoriques sous-jacents. C'est la prise de conscience. Alors, évidemment, dans la psychanalyse, il est hors de question de liquider l'inconscient et de faire de l'inconscient une toute conscience. C'est entendu. Mais le schéma de la prise de conscience était la valeur qui intellectuellement portait le projet psychanalytique. Et je crois qu'aujourd'hui, une des décroyances profondes dont est frappée la vision classique de la psychanalyse aujourd'hui tient à ça. C'est que cette idée a perdu son pouvoir d'appel. Et la réorientation actuelle du champ psychothérapique dans sa masse fait complètement l'économie de cette idée de la prise de conscience. Sans aller même jusqu'à l'extrémité du schéma cognitivo-comportemental, où il s'agit tout simplement de modifier des conduites sur un schéma très simple, sans se préoccuper de savoir ce qu'il y a derrière. Je crois que l'attente spontanée des gens en souffrance psychologique d'une manière ou d'une autre n'est pas celle d'une prise de conscience de la nature de leurs difficultés, mais d'un soulagement qui peut passer par des voies diverses qui n'a rien à voir. Donc là, ça touche en fait un des schémas fondamentaux de la pensée occidentale depuis la fin du XVIIIe siècle, qui est celui de la réflexivité, qui est l'idée, d'une certaine manière, l'idée maîtresse de la philosophie depuis 1800. Et qui connaît aujourd'hui un changement énorme dans ses conditions d'accréditation. Et alors, qui rend sa popularisation très difficile, ça c'est sûr.
Oui, vous commencez votre deuxième tome de l'avènement de la démocratie avec un très beau chapitre sur Nietzsche, qui est intitulé Nietzsche le prophète. Si vous voyez en Nietzsche un prophète, est-ce que vous voyez en lui aussi un guide? C'est-à-dire, en quoi, à votre avis, consiste l'ampleur ou la signification politique de Nietzsche pour notre situation actuelle?
J'ai employé ce terme dangereux dans une acception restreinte. Je ne dis pas que c'est mon prophète, je précise. Je dis que c'est précisément un de ces auteurs qu'on lit dans l'abstrait, en général, alors que si on le replace dans le contexte intellectuel très précis où il s'insère, il me semble que les schémas et les articulations principales de sa pensée, c'est clair. Voilà. Je ne le vois pas comme prophète des temps à venir, mais comme prophète de l'histoire qui va avoir lieu au XXe siècle. L'histoire qui s'ouvre avec la crise du libéralisme, puisque c'est de ça la crise du libéralisme classique. C'est de cela que je le mets comme prophète. Donc, c'est pas mon guide, justement. Pour toutes sortes de raisons, je crois qu'on peut montrer qu'il ne peut pas l'être. Parce que la configuration qui porte ou s'inscrit sa pensée est une configuration révolue. Ça n'empêche pas de rester un grand penseur. Mais je ne crois plus que ce soit un penseur qui puisse servir de guide. Sinon, au titre de... la révolte adolescento-hédoniste à la Michel Onfray, ce qui ne me paraît pas une prophétie décisive. Alors, entendons-nous bien sur ce terme de matérialisme. Je l'ai pris au sens technique assez précis qu'il revêt dans le marxisme, le matérialisme historique. C'est pas justement, comme on disait, c'était le premier cours de ma jeunesse, ça n'a rien à voir avec le matérialisme vulgaire. Ça, c'est le matérialisme scientifique. Très différent. Le matérialisme historique, c'est une théorie de l'explication de l'histoire par les modes de production, le développement des forces productives, etc. C'est ça, c'est dans ce sens-là que j'en parlais. Mais en me situant sur le terrain qui est le vôtre, je dirais, moi, l'invisible que ce matérialisme a surtout fait disparaître, c'est le matériel, c'est l'invisible de l'avenir. Quand on est chez Marx, ce matérialisme était au contraire porteur d'une promesse phénoménale sur l'avenir. Le communisme, comme débouché nécessaire par la révolution des contradictions actuelles du capitalisme. Ah. C'est pourquoi, en effet, le marxisme était une doctrine éminemment apte à capter la croyance, sans base nécessairement très sophistiquée, parce qu'il était une sorte de projection dans l'avenir, très puissante. Quand le point de vue matérialiste, au sens du matérialisme historique, l'emporte, ce qui se passe, c'est ce que nous voyons. C'est le présent économique sans avenir. Ben, l'avenir, c'est le même que le présent, hein, c'est-à-dire le développement des forces productives et la concentration du capital. Les marxistes d'aujourd'hui, ou les marxisants, parce que je pense que les marxistes au sens orthodoxe et cohérent du terme sont devenus une espèce rare, menacée, disons-le carrément. Mais les marxisants, c'est le développement des forces productives sans la révolution, qui était justement ce qui donnait tout son sens à l'idée marxiste. C'est l'idée que pour que le développement des forces productives aille à son terme, il fallait précisément la révolution qui allait mettre fin au goulot d'étranglement inhérent au mode de production capitaliste et à la propriété privée des moyens de production. C'est ça le marxisme cohérent. Mais aujourd'hui, on a, autrement dit d'ailleurs, c'est pourquoi je pense que c'est une doctrine à l'usage d'intellectuels et qui se font plaisir avec, parce que ça ne débouche sur rien. On peut gueuler contre, mais on dit que n'y a aucune raison que ça s'arrête. L'avenir ne peut être que le même du présent. Dans ces conditions-là, quel intérêt? Il faut chercher ailleurs.
À propos du principe de légitimité, les droits de l'homme, qui ont constitué le tournant et qui ont permis à la société de fonctionner assez bien. Qu'est-ce qu'on doit penser aujourd'hui du fait qu'on oppose le légitime au légal ? Donc on oppose le légitime au droit voté. Dans un premier temps, on pourrait considérer que c'est la société qui invoque le légitime contre les corps politiques qui sont retranchés derrière la légalité des textes votés. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des groupes d'individus qui sont pour un texte voté et un groupe d'individus qui revendiquent la légitimité. Donc, vers quel autogouvernement viable allons-nous avec cette contradiction ?
Ben oui, la contradiction est tout à fait réelle. Et qu'est-ce qu'elle suppose ? Comme moyen de résolution, il faut un arbitre du légitime et du légal, qui est le point sur lequel nos systèmes politiques sont pour le moment muets. Alors on a relativement des instances d'appel à des niveaux différents. Le juge, en principe, c'est sa fonction, mais le juge n'est que le juge de la légalité. Il n'y a pas de juge en légitimité. D'ailleurs, on peut montrer, je crois, qu'il ne peut pas y avoir de juge en légitimité, réellement. Les cours suprêmes ou les conseils, les cours constitutionnels en tiennent lieu, mais ce ne sont que des substituts. Ils ne font pas vraiment l'office. C'est une des questions clés qui est posée à l'avenir de nos systèmes politiques. En effet, car à partir du moment, en fait, où les acteurs d'une société s'approprient, sont en pouvoir de s'approprier le principe du légitime, comment faire exister une légalité ? Ce n'est pas une petite affaire. Je crois qu'il y a une espèce de mine, hein, amechelante, qui est placée sous le fonctionnement de nos institutions, et il faudra bien trancher cette question. C'est un des points clés de l'avenir politique des démocraties.
Est-ce que la réponse n'est pas quand même un petit peu entre ceux qui ont des convictions et ceux qui ont des responsabilités ?
Mais encore faut-il que ceux qui ont des responsabilités convainquent ceux qui ont des convictions. C'est bien ça la question. C'est ça il faut que ce... On ne peut pas échapper à la démarche de... Dès lors qu'on élimine la solution autoritaire, on ne peut pas échapper à la démarche de gagner la conviction à l'esprit de responsabilité. C'est laborieux, je vous l'accorde. Mais on ne peut pas en penser autrement.
L'individu de droit dont vous parlez, de toute façon, s'estime
légitime. Non. Il a des droits, il ne s'estime pas légitime. Justement, il ne faut pas confondre. Le principe de légitimité, dans la rigueur de l'expression, mais on la redéfinira parce que ce genre de question oblige à se poser le problème de sa définition très précisément. Le principe de légitimité, c'est le principe qui vaut à l'échelle de l'ensemble. C'est pas moi, je ne suis pas légitime. Dans l'exercice, vous êtes légitime dans l'exercice d'une fonction, quelle qu'elle soit dans nos sociétés, parce que la collectivité vous a expressément mandaté pour ça par ses instances régulières, ou parce qu'elle n'a pas de motif de s'y opposer, ce qui est un cas de figure un peu plus compliqué. Mais la légitimité, c'est ce qui vaut à l'échelle du collectif. C'est jamais ce qui vaut à l'échelle de l'individu. Non, je veux dire, entendons-nous bien, tout citoyen en démocratie est légitime à donner son avis, oui, mais autre chose est de, après, il y a toute une gradation, à part donner son avis, en exprimer qu'on s'oppose à telle ou telle décision prise, ne veut pas dire nécessairement qu'on va s'opposer à son application dès lors qu'elle a été légalement adoptée par une majorité qualifiée. C'est autre chose. Donc, il y a une légitimité de l'expression du dissensus qui ne dit pas qu'il est légitime de s'opposer à la mise en œuvre. Il est légitime de s'opposer à son adoption, pas à sa mise en œuvre. Autre chose est la désobéissance civile, qui, elle, déclare qu'il existe un droit des citoyens très précisément défini, parce que ce n'est pas la désobéissance à n'importe quoi, hein, de s'opposer à telle ou telle décision parce que on fait appel à une légitimité supérieure à celle qui a fonctionné pour faire adopter telle et telle mesure. Il faut être très précis, là, pour ne pas et pour bien mesurer la nature des problèmes qui sont posés.
Je me demandais, mais je vais peut-être avoir des réponses plus tard encore, est-ce qu'il vous permet de dire et nous permettrait de penser que fini des règnes, enfin des structurations hétéronomes et qu'il n'y aura plus de tentation de l'hétéronomie?
À des tentations, il n'y a que ça. Mais une chose est la tentation, autre chose est la réalisation de cette tentation. Voilà, tout est là. Il y a d'une part, justement parce qu'il faut raisonner à une échelle globale, il y a des zones du monde où cette tentation hétéronome a des racines très profondes, qu'on comprend très bien, qui n'ont aucun mystère. Et puis, à l'intérieur même de nos sociétés, on ne se délivre pas comme ça de ce qui a été un mode d'organisation si prégnant de l'existence humaine. Donc, des rémanences, des aspirations, des folies diverses à l'occasion, qui extrémistes dans la tentation, oui, mais est-ce que ça signifie possibilité d'une réinstauration d'un mode de structuration hétéronome? Ça, c'est une autre question, voyez. Et la nostalgie personnelle de beaucoup d'individus dans nos sociétés, c'est une chose. L'organisation collective, c'en est une autre. Vous voyez, là aussi, il faut bien préciser. Mais le point important, c'est ce que vous soulignez au départ. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit en une heure et demie. On pourra creuser un peu plus ces thèmes forcément abordés d'une manière un peu rapide.